qui voulait le quitter, ne supportant pas l'idée. Le mari s'est saisi d'un bidon d'essence pour asperger l'appartement et son épouse avant d'allumer son briquet, mais ce sont ses propres vêtements, arrosés involontairement dans son élan, qui ont pris feu. Il est grièvement blessé. Sa femme a réussi à échapper aux flammes. La septième journée du top 14, avec le choc en ce moment entre Clermont et Castres, le deuxième accueille le quatrième. Tombé pour la première fois de la saison dimanche dernier à Toulon, Clermont entend bien reprendre son fauteuil de leader, mais Castres a le vent en poupe. On joue depuis un quart d'heure, Castres mène 3-0. À 18h30, Pau-Bordeaux-Bègles, Bayonne-Lyon et Toulouse-Grenoble. Et puis à 20h45, Toulon-Montpellier. Du foot également avec à 17h, PSG-Bordeaux. Suite des rencontres ce soir et demain avec le derby pour terminer entre les deux rivaux, Lyon et Saint-Étienne. Et puis ce sera Thomas Berdych, le 9e joueur mondial, qui sera l'adversaire de Richard Gasquet en finale du tournoi ATP de Shenzhen.
Le samedi sur France Inter, à 19h20.
L'Amuse-Bouche, l'émission littéraire à l'heure de l'apéro.
Clara Dupont-Mono.
Mark Zuckerberg et Google ont annoncé vouloir éradiquer les maladies et le vieillissement. Autrement dit, viser l'immortalité. Et voilà que le roman de science-fiction d'Emmanuel Pirotte nous montre que pas du tout, l'humanité s'éteindra ravagée par la maladie. Oh, l'homme serait-il encore plus petit qu'un microbe ?
L'Amuse-Bouche. Tous les samedis sur France Inter à 19h20.
À tout à l'heure.
Et bientôt 15h04 sur France Inter. On rejoint la librairie francophone avec Emmanuel Kérad.
Radio-télévision suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et oui, c'est la librairie francophone. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On vous emmène en Grèce, en Iran, en Espagne et dans un quartier populaire de Toulouse. Aujourd'hui, avec quatre invités, c'est la carte de notre voyage culturel. L'écrivain suisse Metin Arditi revient en librairie avec un roman très attendu, l'histoire d'une belle rencontre humaniste dans un contexte insulaire en Grèce. Son roman est sélectionné pour le prix Goncourt. Nous inaugurons une nouvelle séquence cette semaine avec un son du monde grand format. Nous irons pour l'occasion en Iran avec la revue de photoreportage 6 mois et à Barcelone avec deux jeunes cyclistes qui sont partis faire le tour du monde à la rencontre des libraires francophones. Et puis nous serons avec Majid Cherfi. Son roman Ma part de Gaulois fait beaucoup parler de lui en France. L'artiste raconte l'année de son bac et ses préoccupations identitaires dans une société complexe.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. Pour la Suisse, Laura Sanchez est à Genève dans la librairie du Boulevard. Bonjour chère Laura.
Bonjour Emmanuel.
Ça a l'air d'aller, oui.
Oui, ça va bien.
Bon, Sophie Creuse représente la Belgique à Waterloo dans la librairie Graffiti. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Bonjour, bonjour Grégoire Courtois.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Vous êtes en forme Grégoire, vous allez être oui. Méchant aujourd'hui.
Non, je suis survolté.
C'est le plus méchant, hein, faut le dire aux invités qui sont avec nous. Vous êtes libraire à Auxerre dans la nouvelle librairie Oblique, toute neuve.
Voilà. C'est vrai. Ouais.
Rénovée depuis le moment, enfin vous avez déménagé.
Clair, c'est sublime.
Il faut aller voir la librairie Oblique à Auxerre si vous passez par la France. Au Canada, le caribou sauvage de la littérature, très pointu, très critique aussi, c'est Jérémy Laniel. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Ça va, ça vous convient comme description?
Je ne suis pas encore certain, mais je vais te gérer ça tranquillement.
Très bien, vous n'avez pas le choix. Vous êtes libraire à Rosemère, dans la librairie Carcajou. Bon, soyez les bienvenus, merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Majid Cherfi.
Bonjour.
Vous publiez votre troisième roman, Ma part de Gaulois, un roman très personnel, très incarné, aussi sélectionné aussi pour le prix Goncourt.
Hein. Oh, il a prononcé décidément. Le mot. Waouh.
Excusez-moi, ça va. Qu'est-ce qui vous arrive?
Non, c'est... Dès qu'on prononce ce mot, je...
C'est la première liste
mais
en même temps.
Ça va mieux. Mmh. Oui, mais ça suffit.
Ça changera peut-être la semaine prochaine.
J'en demanderai plus.
Bon, on vous souhaite d'y rester le plus longtemps possible.
Ma foi.
On commence toujours cette émission par une histoire racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche pour une anecdote dont tout le monde va se souvenir, évidemment. Et je découvre en même temps que les auditeurs, que voulez-vous transmettre, Majid?
À l'âge de 11 ou 12 ans, j'accompagnais tous les mercredis ma mère à la poste. Mmh. Et donc, on entre et elle s'adresse à la postière et lui fait « Tu me donnes l'argent ! Tu me donnes l'argent, tu es rempli la... » Bon, et moi, je la tire par la jupe. « Maman, on ne dit pas tu, on dit vous !» Et je prends une claque. Tu me donnes l'argent. Tu me remplis la fille. Maman, on dit pas tu, on dit vous. Bam, je prends une seconde beigne. Elle fait ses petits trucs, on sort. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais, je te dis, on dit pas tu, on dit vous. Mais pourquoi? Elles étaient combien?
C'est une histoire vraie, je suppose.
Une histoire vraie.
Quand on a lu votre livre, on ne peut que croire voilà, à cette histoire.
Ça aurait pu être dans le bouquin.
Oui, carrément. Bon, ça commence fort, c'est bien, vous êtes en forme. Majid Cherfi dans la librairie francophone cette semaine. Bonjour Metin Arditi.
Bonjour.
Vous avez une petite histoire de ce genre, vous? Non.
Ah, vous m'avez dit, l'histoire, c'est Majid. Vers la concurrence. On est déjà en concurrence sur la liste.
Hein. Oui, c'est vrai,
il
sur le concours.
Il faut qu'on reste copains quand même. Hein.
Bon, l'enfant qui mesurait le monde, c'est le titre de votre nouveau roman paru aux éditions Grasset. Livre qui est en lice pour le prix Goncourt, c'est marqué. Je vous montre, je l'ai écrit, vous voyez. Donc il n'y a pas de jaloux. On part en Grèce grâce à vous. La jeune Dicky meurt d'un accident à Kalamaki. Son père, architecte, arrive des USA pour les obsèques. Il décide d'y rester sur cette terre de ses origines, d'y faire son deuil et de rester donc aux côtés de sa fille. Comment faire le deuil de la mort d'un enfant? C'est en fait le premier thème que vous abordez avec cette histoire.
Oui. Il y a dans ce roman un télescopage entre la construction d'un grand hôtel et la construction d'une école oui. idéale.
Philosophique.
Et quand je suis parti dans l'histoire, dans l'écriture, c'était un peu la querelle des anciens et des modernes. Et puis au fil du temps, il y a un petit personnage qui a commencé à prendre de la place pour, à la fin, prendre quasiment toute la place.
Vous ne répondez pas du tout à la question, Métine. Mais vous racontez toute l'histoire du livre, mais on peut y aller. Hein. Ça va réduire le temps de parole.
Faites-moi un plaisir, Emmanuel. Allez-y. Quelle était la question?
Enfin, je ne voulais pas plomber l'ambiance non plus, mais c'est vrai que le début, c'est un peu ça, votre histoire. C'est de raconter la mort d'un enfant et puis de ce père, en fait, surmonte la mort de cet enfant,
Votre question, j'y reviens alors. Pile poil, oui. Mais il fallait que d'abord je donne le contexte. Je reviens à votre question parce que précisément, ce que j'ai découvert en écrivant ce texte, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon de se reconstruire, c'est en construisant quelqu'un d'autre.
Alors, effectivement, le pop de Lille lui dira qu'il y a trois ancrages pour s'en sortir. Le libre arbitre, à nous de chercher ce qui dépend de notre seule volonté. La résurrection, à chaque instant, l'être recommence. Et puis enfin, la vie renaît par le travail. Il ne faut surtout pas rester désœuvré si l'on veut adoucir la douleur.
C'est ça. Alors ça, c'est ce que dit le pop. Et c'est effectivement quelque chose qui correspond tout à fait à ce que je pense profondément. Mais il y a autre chose, c'est précisément le fait que lorsque on veut se reconstruire, on ne se reconstruit jamais seul. On ne peut que passer à travers un autre être et le reconstruire lui.
Voilà, avec cet enfant, Yanis, personnage principal, central, vous l'avez dit, un petit garçon qui va permettre à chacun de se renouveler, de trouver un chemin humaniste, car c'est un roman humaniste, avec évidemment les qualités et les défauts propres à ce genre de livre, on va y revenir. On va écouter la BO du roman, Metin Arditi, on vous a demandé quelle musique illustrerait le mieux votre livre, la bande originale de votre livre. Vous avez choisi Richard Strauss, Fear Letzte Lieder, quatrième pièce, on écoute un extrait, et vous nous expliquez. Pourquoi cette musique de Strauss, Metin Arditi?
Parce qu'elle dit à la fois la grande ampleur, et c'est à cette ampleur que je pense, quand je pense à cette île et au coucher de soleil sur les Nisakia, les petites îles qui sont juste devant, elle dit la grande ampleur et en même temps, elle a en elle une immense délicatesse, une grande finesse, et c'est à la fois très fort et très fragile, ça correspond à mon histoire.
Un peu comme le petit garçon, voilà, effectivement, Yanis, sur cette île grecque, qui est paniqué par le désordre. Alors lui, ça l'affole complètement, le désordre. Donc pour s'apaiser, il mesure l'ordre du monde avec une méthode très personnelle.
Oui, alors il a, comme on dit, construit un modèle. Il mesure chaque jour des paramètres très précis, l'ordre d'arrivée des bateaux de pêche, les quantités pêchées par bateau, par poisson, le nombre de clients sur la terrasse du café du port. Il tire des moyennes. Il compare ces moyennes à des moyennes historiques qu'il recalcule chaque jour. Donc, il a une capacité à la fois de calcul mental et de mémoire phénoménale. Et il arrive chaque jour à mesurer, selon son modèle, l'ordre du monde. Il le compare à l'ordre parfait, qui est de 100. Alors si un jour, par exemple, cet ordre mesuré est de 75, eh bien le soir, il réalise 25 pliages, toujours selon des protocoles très précis, et chacun de ces pliages rattrape un point de désordre.
Voilà, ça adoucit un peu les choses pour lui.
Le monde est en harmonie, voilà, et il peut aller dormir.
C'est un peu le point d'équilibre dans ce contexte insulaire, ce petit garçon. Tout le monde est très bienveillant, d'ailleurs, vis-à-vis de lui.
Plus que bienveillant, les gens l'entourent, mais surtout, il est un exemple. Il ne parle pas. Et pourtant, c'est autour de lui que cette île, qui est déchirée par les deux projets dont j'ai parlé tout à l'heure, malgré vous, j'ai insisté un peu, mais
non, on va en parler, Métine. Le projet immobilier, on va en parler, vous inquiétez pas, ça vient.
Ça vient. Les gens l'observent. Ouais. Ils observent cet enfant, par exemple, lorsque sa mère lui donne une leçon de nage. Parce que apprendre à nager à un enfant qui souffre d'un trouble du spectre autistique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut une patience d'ange. Et il le voit avec ses chiffres dans sa tête, qui mesure, qui fait ce qu'il peut pour que ce monde soit en harmonie. Et finalement, cet enfant qui ne parle pas agit aux yeux de l'île comme un exemple.
Ouais, un révélateur.
Le pape dit de lui à sa mère: c'est l'agneau de Dieu.
Voilà, mais qui vit dans l'enfer. Et il faut l'extraire de l'enfer. Oui. Ça va être le rôle d'Eliot qui lui a perdu sa fille, qui va du coup se retrouver avec ce petit garçon.
Voilà.
Et c'est ça l'histoire du livre, c'est cette rencontre humaniste entre les deux. On va laisser la parole à nos libraires, Métine Arditi, vous êtes d'accord? On commence avec le Canada, Jérémy Lagnel.
Oui, c'est étrange que la lecture de ce roman de Métine Arditi, c'est des personnages forts, des personnages vrais, une Grèce belle, mais belle, d'une beauté incroyable, tellement qu'on en oublie presque un peu la crise, j'ai l'impression. Et plus on avance dans ce livre-là, lentement, parce que tel est le rythme de Métine Arditi dans ce livre-là, bien, plus on a l'impression de regarder une belle carte postale, ça fait chaud au cœur, c'est beau, mais on a l'impression qu'on l'oubliera rapidement, malheureusement.
Bien, en France, le plus méchant libraire est-il conquis par le livre de Métine Arditi? Suspense, allez-y.
Non, mais plutôt, oui, effectivement, je suis plutôt conquis parce que c'est vrai que je trouve que c'est un roman très fin et très subtil, en fait, parce que on est parti, effectivement, de, vous l'avez évoqué, du deuil, quelque chose, on se dit, c'est un drame psychologique, et puis au travers de cette histoire qui est très intime, finalement, on brasse, et là, je suis pas d'accord avec Jérémy, on brasse quand même des problèmes européens, il y a l'Europe qui est très très présente, quand même, avec cette histoire d'hôtel, effectivement, et tout ça est tenu parfaitement, je trouve, par ce personnage très très attachant d'Yanis, ça, vous l'avez
déjà évoqué. Petite réaction, oui. Métine.
Oui, par rapport à ce qu'a dit le libraire canadien, a-t-il lu le livre?
Mais oui, il a lu le livre. Tous les libraires lisent le livre, Métine, ne vous braquez pas.
Tiens.
On verra tout à l'heure avec la Suisse et la Belgique ce qu'ils en pensent. Vous évoquez effectivement, au passage, la condition économique de la Grèce.
Oui.
Un grand projet de tourisme immobilier va mobiliser et diviser les habitants. On ne va pas tout raconter, mais c'est quand même la raison économique qui l'emporte. Alors vous, Métine Arditi, vous êtes un homme d'affaires important. On reconnaît en Suisse votre immense réussite. Quelle est la morale quand l'économie devient prioritaire?
Bon, tout d'abord, je relève que vous avez quand même remarqué qu'il y a une réalité dure dans ce livre, à écouter le monsieur tout à l'heure, on dirait qu'elle n'existe pas. Donc il y a effectivement une réalité très douloureuse, il y a un gouvernement qui change, un vice-premier ministre qui démissionne, un maire qui démissionne. Tout cela, c'est la réalité grecque. Ce n'est pas la carte postale. Dire ça, ça veut dire qu'on n'a pas lu le livre.
Quelle est la morale quand l'économie devient prioritaire ?
Alors, je vous dis simplement ceci. Il y a, dans cette histoire, un projet de construction assez brutal et un projet d'école. Mmh. La morale, c'est la réalité. C'est le bon sens. C'est-à-dire qu'in fine, ce sera le projet de construction hôtelière qui sera réalisé,
voilà, oui.
Mais
oui.
Il sera réalisé selon les critères oui. du projet.
Enfin, il sera réalisé. Je vais reformuler ma question, Metin Arditi. La spéculation immobilière, est-ce que ce n'est pas ça l'échec du monde capitaliste ?
Ah non, je ne crois pas. En l'espèce, il n'y a pas de spéculation. Non, je ne crois pas du tout. Je pense que s'il faut faire une réflexion sur les échecs du monde capitaliste, c'est plutôt sur le plan des inégalités qu'il déclenche.
Ça n'engendre pas d'inégalités, la spéculation immobilière ?
Écoutez, peut-être, mais vous savez, il y a tellement d'autres spéculations infiniment plus grandes qui sont, par exemple, les spéculations sur les monnaies, sur les devises, sur les matières premières, sur ce qui nous nourrit.
Ouais.
Et donc là, en plus, en l'espèce, il n'y a pas de spéculation.
On va laisser la parole aux autres libraires qui
oui.
veulent intervenir. On va partir tout de suite en Belgique. Sophie Creuse, vous voulez réagir ?
Mais oui, mais moi j'ai trouvé très beau le lien entre le père et sa fille disparue et puis avec cet enfant qui se bat vraiment pour ordonner le chaos. Très juste aussi le portrait de sa mère. Et puis cette présence de la beauté et des récits fondateurs, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé dommage, par contre en revanche, que les tractations immobilières dont vous parlez politiques viennent parasiter ce récit-là. Ça aurait pu rester en arrière-fond pour moi, au profit de la première histoire qu'on a envie de prolonger.
Ils ouvrent les bras tous les deux, Magic Hervy et Metin Arditi. Oui, mais ça fait partie du personnage de Metin Arditi. C'est ça, un écrivain aussi écrit en fonction de son passé, en fonction de ce qu'il incarne dans sa vie.
Non, en fonction de ce qu'est la réalité grecque que je oui. connais de près. J'ai une maison là-bas et on ne peut pas faire l'impasse sur l'épouvantable crise que subit ce pays.
La Suisse, Laura Sanchez, que voulez-vous dire à Metin Arditi ? Attention, Metin, c'est la Suisse qui vous parle. Allons-y.
Bonjour. Eh bien, moi, j'ai un sentiment un petit peu mitigé, en fait. Le contexte du roman m'a beaucoup, beaucoup plu. Et puis, pour moi, la grande force que vous avez, Metin Arditi, ce sont les personnages. On s'y attache et on a l'impression de les côtoyer vraiment. La réserve que j'ai se porte sur la trame du roman. Je l'ai trouvée un peu alambiquée, avec beaucoup de thèmes, et je ne me suis pas laissée emporter, malheureusement.
Voilà, les libraires qui sont partagés, Metin Arditi, vous faites le débat aujourd'hui. Et le plus méchant d'entre eux, soi-disant, Grégoire Courtois, est à fond avec vous.
Tout va bien. C'est une légende.
On va terminer avec l'heure de la consolation qui est proche pour Elliot. Grâce à cet enfant, il va renaître. C'est vraiment une belle rencontre. Hein. Vraiment, c'est un livre très humaniste, Metin Arditi. Une histoire très émouvante. Et son ami Cosmas lui dit « Tu sais, quand arrive l'heure de la consolation, c'est lorsque tu te sens prêt à être blessé à nouveau. »
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça ?
Ah, c'est très important. La vie, c'est des risques. On ne peut pas vivre sans prendre de risques. La vie, c'est des échanges. Et à partir du moment où on se retrouve à même de sortir de chez soi, de rencontrer des gens, de créer des amitiés, de tomber amoureux, on prend des risques.
Ouais.
Et c'est ça la consolation.
C'est ça.
Voilà, c'est
Et
ça.
Et on prend le risque de perdre aussi.
Absolument. Ouais. La consolation, c'est s'approcher, il ne faut pas exagérer, c'est s'approcher du bord du volcan.
Bon, on vous le souhaite en tout cas, le bord du volcan. Merci beaucoup, Metin Arditi.
À vous, merci.
L'enfant qui mesurait le monde est publié aux éditions Grasset, un roman qui fait partie donc de la première liste du prix Goncourt. À vous qui nous écoutez de vous faire une opinion. Vous restez bien sûr avec nous, Metin, hein, vous allez écouter Magie dans un instant. Et nous allons aborder le son du monde grand format, nouvelle séquence cette semaine avec la revue 6 mois. On part en Iran avec Marion Quilliard et cap sur Barcelone aussi avec deux cyclistes qui font le tour du monde des librairie francophone. Avant cela, voici le tout nouveau titre de la chanteuse Émilie Loiseau.
Il y a des choses étranges ici. Je voudrais qu'on m'explique. Les gens savent tout, mais ne disent rien. Je vois le monde en plastique. Mona. Mona, Mona, see the world.
équation chimique, une formule algébrique, une équation pour le bonheur, l'anesthésie du cœur.
L'Oiseau avec Mona sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires. Cette année, vous le savez, petite nouveauté, coup de gueule ou coup de cœur, ils ont carte blanche. On commence dans le rayon des romans contemporains en Belgique avec Sophie Creuse. Coup de gueule ou coup de cœur, Sophie ?
Oh ben non, coup de cœur, un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour Marcher droit, tourner en rond d'Emmanuel Venet qui est paru chez Verdier. Alors Marcher droit mais tourner en rond, ben c'est ce que fait le narrateur de ce roman, c'est un autiste encore une fois, comme dans le roman de Monsieur Arditi, un autiste Asperger qui applique sa logique implacable à nos comportements, incompréhensibles pour lui, parce que paradoxaux. Et sa franchise absolue, qui frise l'insolence, nous vaut de la part d'Emmanuel Venet, qui est par ailleurs psychiatre, un livre brillant, magnifiquement écrit et d'une féroce drôlerie.
Et c'est aux éditions Verdier, très belle maison d'édition. Emmanuel Venet, Marcher droit, tourner en rond. Merci beaucoup Sophie. Dans la catégorie des beaux livres, on part au Canada avec le coup de gueule de Jérémy Laniel.
Coup de gueule, oh oui, Les oiseaux rares de Montréal, c'est un livre de Patrick Delisle-Crevier. Comme le savent peut-être certains auditeurs, en Montréal fête son 375e anniversaire l'année prochaine. Et donc, on nous sert ici un livre de Montréal en 52 portraits, des femmes et des hommes qui ont mythifié la vie de quartier, vraiment des personnalités qui ne sont pas des personnalités connues, mais qui du quartier la font vivre de plein de façons. Ouais. Et là, c'est une idée que moi je trouve géniale, vraiment de plonger au cœur de Montréal. Et on fait un projet bâclé avec ça. On a beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, très peu de contenu et on passe au travers. C'est superflu, c'est un survol. Vraiment, je trouve ça décevant d'avoir un si beau projet et nous arriver avec un livre final qui est vraiment, mais vraiment décevant.
Très bien. Bon, si ça vous tente quand même, Oiseaux rares de Montréal, la ville en 52 portraits. Vous vous êtes fait deux amis aujourd'hui, Jérémy Metinarditi et les éditions de l'Homme. Merci, Jérémy.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Une fois par mois, un son du monde grand format avec deux séquences. La première concerne un projet qui va se dérouler tout au long de l'année avec Cyclopédie. Deux jeunes cyclistes font le tour du monde à la rencontre des libraires francophones. C'est Sylvain Tesson qui est le parrain de cette initiative. Bonjour Édouard Delbande.
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, avec Charles-Élie Le Canu, vous allez nous faire découvrir des libraires francophones disséminés sur les cinq continents. Vous avez 24 ans, qu'est-ce qui vous a donné l'envie tous les deux de faire ce tour du monde à la rencontre des libraires ?
Eh bien tout simplement, on terminait nos études de commerce à Paris et on a toujours été tous les deux des grands lecteurs. En fait, pendant nos études, on a un peu vécu partout autour du monde, dans plein de pays, on a fait des stages, des échanges, et on a rencontré certains de ces libraires francophones. Et ça, ça nous a donné envie d'aller à leur rencontre avant de se mettre à travailler et de faire un grand voyage à vélo. Et voilà, on leur a posé la question, on leur a proposé, et ils étaient partants.
Voilà, ouais. Et vous êtes venus nous voir, donc on a dit, bon, on va vous suivre. Voilà, on a fait le pari aussi avec vous. Vous êtes partis début septembre en vélo. C'est plus difficile que prévu ou vous tenez le rythme ? Ça se passe comment, là, pour vous, physiquement ?
On tient bien, on tient bien. Là, on est en Espagne, on arrive à Saragosse.
Ouais.
Et on tient bien, on commence à avoir des bons mollets. Tout se passe bien, le corps tient bon, le moral aussi, et puis pas de problème mécanique.
Bon, vous l'avez dit, vous êtes en ce moment même en Espagne, à Barcelone. La librairie française Raïmès lutte pour sa survie. Partout dans le monde, et nous le verrons avec vous régulièrement avec vos témoignages, les librairies indépendantes se battent chaque jour pour porter la culture francophone. Vous avez rencontré Montse Porta lors de la fête de Barcelone. Manu Chao n'était pas très loin avec un concert événement sur place. Voici le témoignage que vous avez recueilli d'un libraire engagé.
Notre librairie est trilingue. En ce moment, on a entre 65 et 70% de français. Notre public est un public catalan. Des fois, il est francophone. Et après, on a le public français. Il y a beaucoup de français installés à Barcelone. C'est très important. Alors, ça fait beaucoup de gens, ça fait des personnes très hétéroclites. Il faut penser un peu à tout le monde. De par nos activités et nos manifestations, on essaye de donner une dimension d'agitation culturelle quelque part. Parce que la librairie n'est pas un commerce. Si quelqu'un voulait gagner de l'argent, il aurait fait tout sauf une librairie. Ça n'existe pas, un libraire riche. Moi, j'en ai connu un dans toute ma vie. Une librairie ne peut plus vivre seulement en vendant des livres. On passe notre vie à inventer des raisons pour que les gens trouvent attrayant, attractif de venir à la librairie. Cette année, on a la chance de fêter notre 75 ans. On va tout mettre sur le feu pour que cette année soit l'année définitive. Ou ça passe, ou ça casse. Évidemment, ce que je veux, c'est que ça passe. Bien évidemment, et on va tout faire pour ça.
Montse Porta, libraire dans la librairie française de Barcelone. Après l'Espagne, quelle sera la prochaine étape, Edouard ?
Le Maroc. On va descendre en Afrique.
Très bien, on va vous retrouver donc en Afrique d'ici un mois. Merci beaucoup Edouard Delbande, on vous retrouve donc le mois prochain avec Charles-Élie Le Canu, avec un nouveau libraire indépendant. L'occasion pour nous de vous dire évidemment une nouvelle fois qu'il faut acheter ses livres dans les librairies indépendantes. Après l'Espagne, l'Iran, donc, avec cette musique iranienne. La revue 6 mois a publié un dossier sur l'Iran. 80 pages de reportages photos commentés et analysés. Deux sujets ont attiré notre attention. La vie privée des mollahs et la prison des filles. Bonjour Marion Quillard.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue. Merci. Les mollahs, équivalent du curé pour les catholiques, hein, c'est ce que vous écrivez dans le dossier. Sauf qu'ils ont une épouse, une famille, des activités professionnelles.
Tout à fait. On a choisi dans ce numéro de 6 mois, donc, de se consacrer à l'Iran, de parler de ce pays qui nous fascine tous un peu, dans lequel beaucoup de gens ont été, puisque le nombre de touristes explose en ce moment. Et on a voulu le raconter à travers des images qui sortaient des clichés. Et donc ce sujet sur les mollahs, il part d'un compte Instagram qui s'appelle Talabé Today et dans lequel on trouve plein d'images de mollahs dans leur vie privée, effectivement, comme vous l'avez dit, avec leurs femmes, leurs enfants, au travail. Et donc on découvre une image de ces mollahs complètement différente de celle qu'on a, qui est toujours très austère.
Ouais.
Et on les voit boire des bières sans alcool, emmener leurs enfants à l'école.
Mais il y a un grand paradoxe hein, en Iran, parce que à la fois les mollahs et tous les religieux dirigent le pays, guident le pays, et en même temps il y a une grande partie de la population qui se moque de ces personnages, qui les détestent même.
C'est un des paradoxes de ce pays, un de ces nombreux paradoxes qui les caractérisent. Il y a beaucoup de blagues. De blagues notamment sexuelles sur les mollahs. Ça fait beaucoup rire tout le monde. C'est des gens qui sont à la fois des piliers du régime, qui sont respectés par une partie de la population et qui est à la fois méprisés, décriés. Voilà, on va les appeler quand on a besoin d'eux, quand on a besoin d'un conseil pour un divorce, pour un changement de travail.
Mais personne ne se révolte. Hein. C'est-à-dire, c'est un équilibre précaire, mais ça reste un équilibre précaire. Car vous dites d'ailleurs dans 6 mois que les jeunes ont peur du chaos.
Tout à fait.
Donc on les laisse faire et chacun fait ce qu'il veut finalement chez lui.
C'est tout à fait ça. De toute façon, en Iran, une des choses qu'il faut apprendre quand on arrive sur place et qui est évidente, qui saute aux yeux quand on arrive, c'est qu'il y a une différence énorme entre l'intérieur et l'extérieur, entre le dehors et le dedans, la vie publique et la vie privée.
Alors la condition des femmes est malmenée en Iran, comme chacun sait. Les mollahs s'arrangent d'ailleurs avec la religion. L'une des journalistes occidentales sur place en a fait l'expérience. Elle le raconte dans 6 mois avec un jeune mollah qui vient chez elle et qui la drague ouvertement et puis lui propose même un mariage temporaire.
Mariage temporaire, tout à fait. Ça s'appelle le ciré en Iran.
Juste pour avoir un rapport sexuel.
Voilà, en fait, c'est un mariage qui peut durer entre 30 minutes et puis 99 ans. Donc, on fait ce qu'on veut. Mmh. Et donc, ce mollah vient chez elle, effectivement. Alors, elle est très surprise parce qu'elle, sachant qu'un mollah débarquait à la maison, elle s'est quand même voilée, elle a fait attention, etc. Et en fait, le mollah se pointe en blouson de cuir, en jean, et il lui serre la main. Donc, elle est un peu étonnée. Et puis, elle s'assoit dans son salon et puis il lui pose quelques questions. Et puis, finalement, elle lui dit, est-ce que vous connaissez le mariage temporaire, ça vous dirait, voilà. Et donc finalement la journaliste Delphine Minoui, qui a longtemps été correspondante à Téhéran, se braque complètement et finit par le mettre dehors. Ouais. Voilà.
Bon, il faut savoir aussi que la puberté religieuse est fixée à 9 ans pour les filles et à 15 ans pour les garçons. Alors ça, c'est complètement improbable. Ce qui nous amène au deuxième sujet, Marion, la prison des filles. 160 adolescentes seraient actuellement dans les couloirs de la mort. Les filles peuvent être condamnées donc à mort dès l'âge de 9 ans, puisque c'est leur puberté en Iran, et les garçons à partir de 15 ans. Alors il y a la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant qui stipule que la peine de mort ne doit pas être prononcée pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Et ça, tout le monde l'a ratifié. Sauf les États-Unis, sauf la Somalie, mais l'Iran, oui, a signé.
L'Iran a ratifié, mais considère qu'elle respecte la règle en n'exécutant pas les enfants avant leurs 18 ans. Donc ces jeunes filles qu'on voit en photo dans 6 mois, elles sont 15 ans, 16 ans, 17 ans, et elles vont être exécutées à leur 18e anniversaire si la peine est confirmée.
Metin Arditi, vous voulez réagir ?
Oui, je voulais poser une question. Donc ces filles sont condamnées, on attend qu'elles atteignent l'âge de 18 ans. Ensuite, est-ce que l'exécution a lieu ?
Oui, alors en fait, à chaque fois, le juge a l'obligation de reconfirmer la condamnation. Mais dans la plupart des cas, effectivement, la condamnation est reconfirmée.
Très bonne transition, Métine, parce qu'il faut savoir qu'en Iran, il y a un reportage écrit, celui-ci, dans 6 mois, qui raconte la notion de pardon de la famille de la victime. C'est-à-dire qu'on peut sauver un condamné à mort, mais à condition, voilà, que la famille pardonne.
On peut non seulement le sauver, mais aussi le libérer.
À la dernière seconde, oui.
Mais aussi le
libérer. Jusqu'à la dernière seconde.
Ce qui veut dire que si je veux sauver un condamné à mort, je peux aller essayer de convaincre la famille de la victime de pardonner. Je peux la convaincre en insistant sur des arguments humanistes, mais aussi je peux lui demander de l'argent. Et donc ça implique plein de choses différentes avec des gens qui sont activistes, qui vont choisir des dossiers, qui vont décider que telle personne doit survivre et convaincre la famille de la victime de pardonner, soit avec de l'argent que cette famille peut récupérer, soit avec des campagnes de crowdfunding en Iran où on peut sauver un condamné à mort.
On va terminer sur cette musique de Saeed Sodehi, une grande artiste iranienne. Merci beaucoup Marion Quillard. La revue 6 mois, automne-hiver 2016, est en librairie avec un triptyque photographique sur l'Iran. 6 mois, c'est une revue de photoreportage vraiment formidable, publiée donc, comme son nom l'indique, tous les 6 mois. On est tous d'accord dans l'équipe pour dire que c'est la meilleure revue diffusée en librairie. Vous êtes d'accord, Grégoire Courtois ?
Moi, je pleure à chaque fois que je lis un numéro de 6 mois.
Ah, c'est un beau compliment.
Je vous jure que c'est vrai.
C'est valable encore pour celui-là. Tout est passionnant. 300 pages de photos, de textes. C'est sublime. Dans cette plus grande librairie du monde, on part en France. Et on se calme un petit peu avec les compliments. Grégoire Courtois, coup de gueule ou coup de cœur?
Ah, coup de gueule.
Ah bah tiens.
Bon, bah oui, quand même.
Allons-y.
Non, mais écoutez, le dernier roman de Laurent Mauvigné, que j'adule. Vraiment, je vous le dis franchement, j'adore cet auteur. Ouais. J'ai lu tous ses livres et je les adore tous, sauf le dernier. Continuez, aux éditions de Minuit, toujours. Qui m'est vraiment tombé des mains, notamment pour toute la partie française. C'est un roman qui se passe quand même en grande partie au Kirghizistan. Toutes les parties kirghizes sont vraiment très très belles et très très fortes, très très dures. Mais la partie française dans le foyer avec l'ado récalcitrant, et ça m'a ennuyé, mais d'une force incroyable. Donc, si je peux me permettre, ouais, je vous conseille Autour du monde de Laurent Mauvigné, toujours aux éditions de Minuit, qui vient de paraître au livre,
en livre de poche,
et qui est vraiment là, par contre, un roman splendide de Laurent Mauvigné. J'en resterai sur celui-ci et j'attends avec impatience le suivant.
Bon, il en a pris pour son grade, Laurent Mauvigné, Autour
mais
du monde.
Je l'adore.
Non, mais c'est vrai, enfin, bon, moi, ouais, je vais pas donner mon avis,
c'est
le dernier, bon,
ouais. C'est d'autant plus dur pour moi de le dire.
Très bien, c'est bon, ça va aller? Ouais. Vous allez tenir jusqu'à la fin de l'émission ou pas?
Je vais lui passer un coup de fil.
Bon allez, on enchaîne. La Suisse, Laura Sanchez, coup de cœur je crois.
Oui, un énorme coup de cœur. Emmanuel, je suis sûre que vous êtes comme moi, vous adorez les Belges.
Évidemment.
N'est-ce pas?
Évidemment, j'ai un quart belge. Un quart belge, un quart suisse, un quart français, un quart canadien.
Ah ben voilà, parfait. Alors il y a un album qui permet de se régaler de l'humour et de l'autodérision belge. Alors d'abord, c'est un magnifique album aux couleurs fortes et contrastées. À la fin, il y a un petit lexique pour ceux qui ne comprennent pas le belge. Et un CD avec un conteur génialissime qui s'appelle Charlie Dupont, qui prend des accents différents en fonction des personnages. Vite, attrapez ça, c'est Le Petit Chaperon Belge par Camille de Cussac et c'est édité chez Marcel et Joachim.
Très bien, on suivra vos conseils. Merci Laura. La librairie francophone avec Metin Arditi, Marion Quillard et donc Majid Cherfi, Ma part de Gaulois est paru chez Actes Sud fin août. Et le 19 septembre, en France, lors d'un meeting d'un ancien président qui veut redevenir président et qui a déclaré « Dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois ». Étrange coïncidence d'après vous, Majid Cherfi? C'est un hasard ou c'est une récupération politique?
C'est pas une coïncidence, il m'a tchouré mon titre, il m'a tchouré mon... Sauf que moi, gaulois, c'était censé être teinté d'humour, et que lui est malheureusement sérieux.
Mais très sérieusement, vous pensez vraiment que c'est de la récup?
Oui, parce qu'il y a comme ça, il y a un air du temps, et donc.
Parce qu'on a beaucoup parlé de votre livre en France, hein, du coup, ça n'a pas échappé au service de communication de cet homme politique.
Ouais, absolument. Et donc voilà, il y a des élections là qui se pointent, il s'agit de récupérer les troupes du Front National. Et quoi de plus facile que d'avoir comme bouc émissaire l'arabe et le noir?
Et Majid Cherfi dans le collimateur, c'est pas mal. Bon, du coup, on lit votre roman Majid, parce que ça reste un roman quand même. Hein. On s'interroge, vous chargez pas mal sur l'identité, sur l'intégration des enfants issus de l'immigration. C'est universel et ça mérite un débat. On poursuit cette conversation après un titre joué en accord. Acoustique ici dans nos studios, je vous propose de poser votre casque, de rejoindre le grand piano noir, piano à queue qui est derrière nous. On vous a laissé carte blanche et vous avez choisi d'interpréter une reprise d'un titre de Pierre Perret. Ce qui nous a beaucoup étonné, je vous avoue, là encore vous allez expliquer. Voici Mimi la Douce, interprétée par Majid Cherfi, accompagnée de Pierre-Emmanuel Roubaix au piano dans la librairie francophone.
C'est l'histoire de Mimi, Mimi la douce pour les amis, Mimi cœur sec pour les blancs becs. Ses 20 berges, elle les faisait même pas, elle avait qu'à siffler comme ça, 20 types s'écroulaient dans ses bras. Moi, je lui brodais 3 fois par jour, de délirants billets d'amour, de la même encre que ses yeux doux. Ses grands yeux tiraient sur le violet, sa bouche était un bol de lait, que je lapais comme un matou. Elle avait ma petite violette, de chouette mirette, un corps de fête, que j'endimanchais d'un costume de baiser. L'amour s'ébatte, me dit-elle un jour, mais on est fauché, mon amour, faudrait casser chez les Rupins. Je lui dis t'oublie que je suis chanteur. Un jour j'aurai des droits d'auteur et on pètera dans le satin. Elle me dit les poules auront des dents. Soyons pas vaches en attendant, soulageant les riches malheureux. Moi, pour un seul de ses cheveux clairs, j'aurais foutu un type en l'air si elle m'avait dit efface-le. Elle avait ma petite violette, de chouette mirette, un corps de fête, que j'endimanchais d'un costume de baiser. On a d'abord fait les perceptions, les coffres des allocations, les bijouteries pleines de promesses. C'est pénible à dire et c'est honteux, au moment d'estourbir les vieux, je mouillais ma chemise comme une gonzesse. Et je commençais à peine à me faire la main, quand toute la maison Poularda nous a mis le grappin sur le dos. Maintenant je suis tendu comme un veau. Ils l'ont mise à la petite roquette et moi en centrale à Clairvaux. Mais je retrouverai ma violette, ses chouettes mirettes, son corps de fête, que j'endimancherai d'un costume de baiser.
Magide, chère fille, Mimi la Douce, qui reprend le titre donc de Pierre Perret, au piano dans nos studios pour la première fois à la radio sur ici Radio Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. Bravo Magide.
Merci.
Belle interprétation.
Je suis très ému moi-même quand je la chante, c'est terrible.
Très émouvant. Allez, petite transition pour vous remettre.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Très courte transition. Buvez un verre, voilà, une petite bouteille d'eau. Magide Cherfi est donc dans la librairie francophone cette semaine pour Ma part de Gaulois, paru aux éditions Actes Sud. Vous racontez votre adolescence, l'année du bac, dans votre quartier à Toulouse. Votre mère vous couve, vous êtes bon élève, vous aimez le théâtre, la littérature. On vous traite de pédé, de tarlouse. Et en musique, vous aimez la chanson française.
Oui.
Pierre Perret, donc ?
Entre autres Pierre Perret, parce que en fait, il faut se remémorer cette période des années 70 où je crois que nous on avait Radio Monte Carlo à toutes les fenêtres.
RMC, oui. Ouais.
Et donc il y avait Sardou, Johnny, Claude François, Frédéric François, Paul François, et Pierre Perret qui venait nous bercer comme ça avec ses chansons de vacances.
Mais c'est ça votre part de Gaulois, Magide Cherfi, ce goût pour la culture française de base. On est proche du cliché, c'est presque réactionnaire, Pierre Perret.
Ben ouais, mais bon, s'il faut être réactionnaire. C'est que je dois l'être, mais je dois reconnaître que j'ai été bercé par ça. Et si vous me demandez une chanson de Claude François, c'est parti, quoi.
Alors, ah, c'est parti, ouais.
Oui.
Quoi, par exemple?
Regarde ta montre, il est déjà... Non, mais non, il rit alors que je suis dans l'émotion. C'est Godin, ça. J'étais mort, mais voilà ce qui passait à la radio.
Allez-y, je vous en prie, excusez-moi.
Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs. Bon, je vais pas prendre toute l'émission.
C'est vrai que quand on connaît tout ce que vous avez écrit pour Zebda, on est très étonné quand même par ces chansons, ces références.
Oui, parce que si vous voulez, c'est l'enfance. Donc il y a un moment comme où on subit comme ça ce qui se passe dans la rue. Et moi, alors dans les quartiers nord, il y avait une rue, donc il y avait certes beaucoup de Maghrébins, mais quelques Français, Espagnols, Portugais, etc. C'était pas Léo Ferré qu'on écoutait dans les quartiers nord. Et moi, c'est en arrivant au lycée que je découvre la France. Merde, Ferré, Ferrat, Brel, etc. Mais et donc voilà, moi je découvre ça plus tard. Mais dans mon enfance, c'était ce qui s'écoutait dans les milieux populaux.
Vous dites dans ce livre que grâce à l'école, vous vous sentiez français. Vous écrivez français jusqu'à 17h et ensuite la rue nous broyait.
Oui, parce que si vous voulez, l'école c'est le seul moment où il y a un prof qui se met en colère en disant « Qui que vous soyez, vous serez traité ici à égalité, il n'y aura pas de favoris ». Et donc, on écoutait ce message de l'égalité. Et à 17h, c'était « Hé, sale bougnoule, casse-toi de là !» Et donc, la réalité nous rattrapait. Ouais. Et un grand écart s'opérait au fil du temps entre le message de l'école et la réalité. Et l'envie de dire aux instituts « Hé, mais dehors, c'est pas comme vous dites
!» C'est ça. Et surtout, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Sur la passion pour la culture, pour la littérature, il y a une bande qui s'oppose à vous, qui s'oppose aux livres, qui s'oppose à la culture francophone. Les livres sont un affront.
C'est pas tellement, si vous voulez, que qu'ils soient contre moi, mais comme mes potes sont en échec scolaire, ils sont donc en colère contre ce à quoi ils n'ont pas accès. Et moi,
ce qu'ils ont raté aussi.
En tout cas, ils n'ont pas été aidés. Une mère derrière, un curé, une sœur, un prof, une épicière. Quand vous êtes exclu, vous êtes contre tout ce que vous n'avez pas.
Ouais.
Et le livre, c'est le premier ennemi de l'exclu.
Alors, il y a cette page 126 aussi dans votre livre Magie de Cherfi qui sonne un peu comme une provocation. Vous imaginez, avec un copain encore, une pièce qui s'appellerait « Nos excuses ». Les excuses des Arabes envers le peuple français, je cite.
Ouais.
Et là, vous dressez une liste.
Ouais.
Excusez-nous d'être sale, excusez-nous de ne pas être allé à l'école. Enfin, il y a toute une liste
de
comme ça.
De parler fort, d'être musulman.
Ouais. C'est affreux d'écrire ça.
C'est de l'humour noir quand même. Mais c'est vrai qu'on se retrouve entre nous.
C'est comme une confession, Magide, vous voyez ce que je veux dire ?
Non, c'est pas une confession, parce que je vais vous dire, c'est de l'humour.
Vraiment ?
Si je vous le dis.
Oui, d'accord.
Oui, on se retrouve entre nous, entre potes.
Oui.
Entre beurre, il y a même quelques blancs, entre guillemets. Et on est là, il y a un truc qu'on pourrait faire. On va se concerter, tous les rebeux, et organiser notre départ. On va leur foutre la paix. Convoquer des trains, des avions, etc. Et tous de notre plein gré, on se tire. Et vous voyez, on est dans ce genre d'ambiance. Ouais. Parce qu'on a une distance sur nous-mêmes.
Mais vous ne craignez pas que cela donne de l'eau au moulin à ceux qui aujourd'hui combattent ouvertement en France les migrants, les immigrés, les étrangers? Pensez pas que ça peut être récupéré, ça, qu'on puisse pointer du doigt ce texte en disant « Voyez, on a raison ».
Il y a toujours des gens mal intentionnés pour lire à votre place.
Toujours,
Ou pour penser à votre place. Moi, je sais... ce que j'ai écrit, si vous voulez, je suis bien intentionné dans mon bouquin. Et ben, c'est un petit peu comme là, il y a des élections, on nous dit déjà, il y aura Marine Le Pen et Sarko au second tour. J'ai envie de dire chiche. Déjà, je suis sur moi de ne pas aller voter, d'une part. Mmh. Et on est là, bon, ça fait 30 ans que vous nous dites que le Front National... Écoutez, allez-y !
C'est de la provoque, ça, imagine.
Puisque...
De votre part, je parle.
Mais c'est aussi...
On peut cautionner les idées du Front National, mais que vous ne les cautionnez pas.
Mettez-vous à la place...
Ça a été votre combat de toute votre vie artistique, ça.
Mais mettez-vous à la place de ces millions de jeunes qui sont là et qui servent de bouc émissaire à tous les politiques de beaucoup de droite et aussi un peu de gauche. On en a plein le cul de cette pression du Front National. Donc, vous le voulez, allez-y.
Bon, on va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre, Magie de Cherfi. France, Canada ou Belgique, qui choisissez-vous en premier?
Le Québec.
Le Québec, Jérémy Laniel, allez-y.
Ouais, l'écriture de Cherfi, elle peut être jouissive de toutes sortes de façons, vraiment. Que ce soit par sa maîtrise ou son intelligence, il y a toujours quelque chose qui fait mouche avec son écriture. Le ton est juste, parfois un peu baveux, mais jamais dégoulinant. On parvient à aimer ce jeune au talent immense, aux ambitions démesurées. Tout au long de la lecture, les tergiversations de cet écrivain de la famille, en quelque sorte, ça nous tient en haleine d'un bout à l'autre. Et ça en fait un récit quand même criant d'actualité, là.
Sophie Creuse, en Belgique, êtes-vous d'accord ?
Mais écoutez, je vais le dire autrement. Moi, c'est vrai qu'on entend ce récit, il est gouailleur, il est tendre, il est lucide, mais il est surtout extrêmement interpellant et inattendu, parce que vous nous dites finalement que le plus effarant est le regard de mépris et de haine que les jeunes Français nés de parents immigrés portent sur eux-mêmes. Cet auto-sabotage qui revient à s'exclure soi-même de la société, du possible et de la culture.
Tout à fait, c'est absolument ça.
Grégoire Courtois, attention.
Non, mais moi, je suis d'accord avec tout ça. C'est vrai qu'il y a une très belle langue, etc. Tout le monde l'a dit. Mais effectivement, moi, je rejoins le début de ce débat. C'est que la question que je me pose, en tant qu'enfant aussi, qui a vécu dans les années 80, pareil, c'est que il y a une espèce de violence permanente de cet environnement qui me fait dire, mais attendez, j'ai loupé un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais des amis maghrébins, etc. Donc, je comprends pas. Ici, on a accueilli des gens, par exemple, qui avaient fait la guerre civile au Burundi pendant leur jeunesse et finalement, qui avaient l'air d'avoir une enfance peut-être plus heureuse que la vôtre. Et du coup, je me pose une question, qu'est-ce que c'est que cette France, quoi ?
Magie de Cherfi.
Écoutez, oui, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Je crois, si vous voulez, en un rendez-vous manqué. Voilà. Longtemps, il y a eu un récit français de blanc entre blancs. les Rebeux, les Blackos, on a débarqué. Et puis, il y a un arrêt du récit et on n'y est pas entré, en fait. Et donc, depuis 30-40 ans, on est là, nous, à taper contre mur, en disant hey, « Hé, on y est quand dans le roman français ?»
Quel est le problème avec l'intégration? Parce qu'à un moment, il y a le père d'un de vos copains, Thierry, un bon français que vous côtoyez, avec qui vous faites un peu de musique, qui vous dit de transmettre à vos parents toutes ces félicitations pour leur très belle intégration.
Ouais.
Et ça, ça a l'air de vous gêner un peu, de vous troubler.
Oui, parce qu'il y a une condescendance. On nous aime. Vous voyez, moi, par exemple, je suis aimé par des tas de gens parce que je fais l'apologie de la nation, du patriotisme, de la République,
oui,
entre autres.
Oui.
Je fais pas que ça. Et je sais que je vais servir de faire-valoir à des gens qui aspirent à une société plurielle. Et les copains me regardent en me disant « Mais tu le fais pourquoi ? Tu le fais quand tu fais 1000 pas, la République en fait pas un. » Ben, j'ai quand même envie de le faire parce que j'ai cette francité en moi et je veux pas la déchirer.
Oui. Mais quel est le problème avec l'intégration? Parce qu'on a l'impression, avec vos copains, notamment dans la rue, dans le quartier, on a l'impression que chez les beurs, comme on dit, hein, ce sont les enfants issus de l'immigration, il y a un problème d'être intégré et d'être français. Et ça, on le trouve nulle part ailleurs dans la francophonie. Il y a plein d'étrangers qui sont complètement assimilés au Québec ou en Suisse et qui se disent Suisses et Québécois.
Écoutez, c'est très simple. C'est pas tant qu'il y a un problème d'intégration. Ils sont dans un pays, ces mômes, et je vous parle de la troisième génération, ceux qui ont 16-18 ans.
Ouais.
Ils sont dans ce pays qui leur dit « Vous êtes français ?» Mais vous n'êtes pas chez vous. Ils ne vont quand même pas aller embrasser le mur de la République. Mmh.
Donc ça passe par là, c'est ça que vous voulez dire. L'intégration passe par le respect total de l'autre.
Des signaux de la République, vous êtes nos enfants. Des signaux de l'État, des signaux de la nation. Voilà quelques symboles qui vont vous faire partie de la famille.
Mmh. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir le bac, Magid Cherfi?
Alors déjà, ma mère avait un couteau de cuisine long comme ça sur la table. Si je ne l'avais pas, j'étais découpé en deux. Donc j'ai sauvé ma peau.
Oui.
Et puis écoutez, ensuite le bac, je crois que c'est... voilà, il y a comme ça des choses symboliques pour nos parents, où ils ont l'impression que, voilà, j'ai failli dire, on fait partie de la belle race, celle des érudits.
Ouais. Vous voyez, vous faites une distinction là.
La race des érudits.
Ouais.
Oui. Ben écoutez, ma mère avait besoin qu'on acquiert du savoir. Est-ce un crime?
Non, certes.
Voilà.
Bon, vous étiez une star en tout cas dans le quartier déjà.
Dès
que vous avez eu le bac. C'était...
Oui, parce que j'étais voilà, j'étais, je conjuguais très bien mes phrases très tôt.
Ouais. Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Laura Sanchez en Suisse, à vous l'honneur cette semaine.
Oui, merci. Mais quel beau texte, monsieur Cherfi. Dans ce récit d'enfance et de jeunesse, vous nous faites, l'air de rien, le portrait d'une génération, les beurs. Leurs espoirs, leur colère et leur schizophrénie, car c'est le mot que vous employez. Alors, il y a de la colère, mais il y a aussi beaucoup de tendresse. Et puis, votre récit est très intelligent. Ça ne cède jamais à la caricature ni à la facilité. Et puis, on rit beaucoup. Alors voilà, c'est un livre qui tombe à pic maintenant.
Merci.
Vous avez séduit nos libraires.
Ben écoutez, j'en suis ému.
Vous êtes un artiste lumineux, on vous suit depuis très longtemps, hein, vous le savez, et musicalement, et littérairement. Voilà, c'est le nouveau roman. À la fin du roman, il y a des envolées lyriques, hein. C'est très drôle la fin du roman, je vous la conseille vraiment. Votre personnage prend de l'assurance, il joue le type qui a besoin de toute sa concentration pour écrire. Je vous imagine très bien comme ça d'ailleurs. Et il déclame comme ça et on le compare à Galabru.
Oui.
Vous êtes un peu Galabru.
Oui,
à l'époque, hein.
Parce que si vous voulez, il y a tout le temps ce truc qui dit, lui, c'est le Belmondo des quartiers nord, le Sartre de la cité. Il y avait toujours cette espèce de jointure à faire entre un bel artiste et les quartiers nord.
Et vous étiez le Galabru de Toulouse.
Et moi, le Galabru toulousain.
C'est parfait. Merci beaucoup, Magid Cherfi.
Merci.
Votre roman, Ma part de Gaulois, est paru aux éditions Actes Sud, roman qui est aussi donc sur la liste du Goncourt. Bonne chance à vous. Et comme le disait Michel Galabru, justement, dites donc, dans cette émission.
Oui.
Écoutez.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le Canadien algérien Mehdi Cayenne et un extrait de son album.
Quel jeu on joue? Tendre l'autre joue à la folie qui éclaire ma nuit, mon amour. Une araignée au plafond, une étoile sur le front. Et nous avons traversé les intempéries pour se dire aujourd'hui basta les vautours. Personne ne sait ce qu'aura été notre amour. Quel jeu on joue, tendre l'autre joue à la folie. Qui éclaire ma nuit, mon amour, une araignée au plafond, une étoile sur le front. Et nous avons traversé les intempéries pour se dire aujourd'hui basta les vautours. Personne ne sait ce qu'aura été notre amour. Ma nuit, mon amour, une araignée au plafond, une étoile sur le front. Et nous avons traversé les intempéries pour se dire aujourd'hui basta les vautours. Personne ne sait ce qu'aura été notre amour.
Jeu, titre de Mehdi Kayenne, que vous pouvez retrouver sur Internet, sur les plateformes légales de téléchargement et d'écoute en ligne. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Gilles Gaillard. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Laure Grand-Besançon. En France, Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Leput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter chaque semaine. À très bientôt, même jour, même heure, sur votre radio francophone.